La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à Catherine Kokri-Bidrovitch, pionnière des études africaines en France et première femme à former des historiens en Afrique. Adulée par toute une génération de professeurs, elle est affectueusement surnommée Mama Africa par ses anciens étudiants d'Afrique de l'Ouest.
Avec Catherine Kokri, on n'est pas seulement en présence d'une historienne. Elle est une historienne au sens plein du terme, c'est-à-dire capable de mettre la distance entre le sujet et l'objet. Mais en même temps, elle est passionnément engagée dans son objet. Elle est une militante, elle est une africaine. Elle a la même passion qu'un historien africain aurait pour cet objet. Je lui ai dit récemment, je ne vois pas en quoi je suis plus africain que toi. Et ça, c'est la chose qui m'a le plus fasciné chez elle. Parce que j'en connais des historiens européens, des historiens américains, mais j'en connais très peu chez qui je sens autant une telle passion pour l'Afrique et les choses africaines. Et le flair qu'elle a de sentir l'Afrique, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé chez elle d'extrêmement fascinant. Et ce nom Mama Africa lui va à merveille. Et ça vient d'un de nos grands historiens que j'admire tout aussi fortement, Anthony Assiouadjou, qui est l'historien par excellence de la frontière en Afrique et qui a dit un jour à Sydney, au Congrès international des sciences historiques, « Ah, Catherine Kokri-Bidrovitch, c'est Mama Africa !» Et d'où le titre qu'on a donné à l'ouvrage qui lui a été consacré, Mama Africa, et je pense que ça tombe pile poil.
Enregistré à Dakar, face à la mer, près du phare des Mamelles, la voix de l'un de vos admirateurs, Catherine Kokri-Bidrovitch, je vois votre surprise, mais aussi votre émotion à son écoute.
Ibrahim Atioub, c'est peut-être un de mes admirateurs, mais je suis aussi une de ses admiratrices. Et j'ai été très fière, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, parce qu'il m'a demandé d'aller le remplacer à une conférence à Lausanne. Et je trouvais que c'était vraiment... très gratifiant de pouvoir remplacer celui qui avait été un étudiant si brillant.
Le maître remplace l'élève.
Voilà, oui, mais l'élève est devenu un maître.
Alors Ibrahim Atioub, actuel recteur de l'université de Dakar, éminent spécialiste de l'esclavage, rappelle ce livre Hommage, publié en 2005 aux éditions L'Harmattan, intitulé justement Mama Africa. Alors moi, je vous retourne la question, est-ce que vous vous sentez africaine, Catherine Kokri-Bidrovitch?
Ah non, pas du tout. Je sais très bien que je ne suis pas africaine. Je suis très honorée de ce surnom qui me touche beaucoup. Mais je ne voudrais pas qu'on le prenne vraiment au sens propre parce que je sais très bien que je ne suis pas africaine. Ce que j'ai bien aimé lorsque disait Ibrahima, c'est peut-être de la passion, mais disons c'est du flair et du senti, ça tout à fait. Ça, j'en suis consciente.
Alors en tout cas, ça fait des décennies que vous sillonnez cette Afrique post-indépendance et que vous vous intéressez à son histoire longue. Et vous le montrez dans l'exposition « L'Afrique des routes » proposée au Quai Branly, dont vous êtes la conseillère scientifique, puisque vous replacez l'Afrique dans la mondialisation en remontant bien avant la traite négrière. Alors pourquoi justement vous avez choisi cette perspective très longue ?
Mais parce que l'histoire de l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne, est la plus longue histoire du monde. C'est là que l'humanité est apparue. Alors bien sûr, il faut sauter de la préhistoire au début de l'histoire proprement dite, c'est-à-dire à la domestication de l'agriculture et tout ce qui va se passer ensuite. Mais c'est une histoire aussi longue, aussi mouvementée, aussi complexe, que n'importe quelle autre histoire du monde, et surtout c'est une histoire totalement méconnue en Occident et en particulier en France.
Catherine Kokri-Bidrovitch est dans la marche du monde pour nous raconter son itinéraire de Mama Africa, car pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient, comme le dit son proverbe préféré.
Oh,
Revenons sur l'itinéraire de Catherine Kokrividrovitch dans la Marche du Monde. Jeune professeure d'histoire en 1959, vous rejoignez votre mari Michel Kokri en Algérie en 1960 et c'est votre premier contact avec l'Afrique du Nord. Alors est-ce que c'est également votre premier coup de cœur avec l'Afrique ?
Absolument. Le coup de cœur m'est arrivé, alors évidemment j'allais rejoindre mon mari qui était conscrit, mobilisé à cause de la guerre d'Algérie et qui était à Oran. Moi j'étais jeune prof de lycée et je mettais à profit le congé scolaire et puis mon congé de maternité. Ma fille aînée est née à Oran en 1960. Mais le coup au cœur que j'ai eu au moment de l'atterrissage, avant l'atterrissage, la beauté de ce pays. Et ensuite, quand j'atterris, le côté passionnant des gens m'a vraiment décidé à travailler sur l'Afrique.
Alors en 1962, l'Algérie gagne sa guerre d'indépendance contre la France. Et c'est cette même année que vous postulez à l'école pratique des hautes études en sciences sociales pour un poste de chef de travaux en histoire de l'Afrique subsaharienne. Qu'est-ce qui vous a pris ?
Bah écoutez, j'étais prof de lycée, je cherchais un sujet de thèse d'État à l'époque et j'aimais beaucoup l'histoire du Moyen-Âge. J'étais allée voir un grand prof bordelais, il s'appelait Yves Renoir. Je lui avais demandé un sujet, une anecdote que j'ai racontée souvent, mais il m'avait dit « Paris au XVe siècle, c'est un merveilleux sujet, mais je ne vous jure pas que vous n'y passerez pas votre vie. » Et je sortais de chez lui en me demandant si j'avais vraiment envie de passer ma vie dans Paris au XVe siècle. Et là-dessus, j'ai eu le coup au cœur en Afrique du Nord. J'ai dit, il n'y a pas un pli, c'est sur l'Afrique. Je veux faire de l'histoire dépassionnée, enfin de l'histoire, comme le dit Ibrahima, lucide et scientifique. Mais je veux une histoire quand même qui serve à quelque chose. Je ne savais même pas à l'époque qu'il y avait déjà beaucoup de travaux sur l'Afrique du Nord, grâce à Charles-André Julien, qui a été un très grand bonhomme et qui a dirigé, mais il n'y avait rien sur l'Afrique subsaharienne, on disait Afrique noire à l'époque. Je suis en réalité, je suis la deuxième génération, je ne suis pas la première, hein, je ne suis pas fondatrice, mais les fondateurs de l'histoire africaine en Sorbonne ont été d'anciens administrateurs coloniaux. Il n'y avait pas d'historiens qui avaient... et puis il y avait le mythe à l'époque, un mythe chez les enseignants des universités, tout à fait surprenant, que c'est pas la peine de faire l'histoire de l'Afrique, elle n'a pas d'histoire puisqu'elle n'a pas de sources écrites. Ce qui est une stupidité parce que tout est source, évidemment. Et un des premiers combats a été pour les sources orales, mais il y a l'archéologie, les récits, tout ce qu'on veut.
Alors 3 ans plus tard, en 1965, c'est votre première mission au Gabon et votre première vraie rencontre de terrain, celle d'un conseiller du président Léon Mba. Pourquoi ce témoignage-là sur la colonisation vous a-t-il tant marqué ?
Parce que j'ai découvert au Gabon, j'étais allée au Gabon, au Congo et en Centrafrique, j'ai découvert au Gabon un racisme que j'imaginais exister en 1890 ou 1920, mais pas en 1965, 5 ans après l'indépendance. Et ce fonctionnaire français, qui était fonctionnaire détaché auprès du Premier ministre, m'a dit dans son bureau, à quelques mètres du bureau du ministre qui venait de me recevoir, vous comprenez, ces gens-là, avec des bonnes façons, nous en faisons ce que nous voulons. Il ne m'avait jamais vu. Le seul point commun que j'avais avec lui, c'est que j'étais blanche. Ça m'a révulsée, évidemment, mais ça, je pourrais en raconter pas mal d'anecdotes de ce genre-là, mais c'était encore très très vivant, et pas seulement chez les expatriés du genre homme d'affaires, chez des fonctionnaires. Lui était un ancien fonctionnaire colonial qui était très fier d'avoir succédé à son père et fini la route que son père avait commencée.
Alors justement, vous allez au Gabon, mais aussi en Côte d'Ivoire. Quelle vision gardez-vous de ces sociétés africaines qui sont à la fois noires mais aussi blanches, hein, puisque la colonisation est encore présente sous la forme de la coopération, dans ces sociétés nouvellement indépendantes? Que voyez-vous autour de vous?
J'essaye d'absorber. Je dis que quand je suis en Afrique, je fais l'éponge. J'absorbe. Je parle peu, en fait. J'interroge peu, mais j'écoute énormément. Et on apprend énormément en observant. Alors j'ai beaucoup... Je n'ai voisiné vraiment qu'avec des Africains, parce que c'est eux qui s'occupaient de tout, finalement. Je n'ai rencontré quelques Européens pour les recommandations. Il fallait que j'aie des recommandations pour consulter des archives des sociétés concessionnaires sur lesquelles je travaillais. Donc j'allais voir le représentant en Afrique, à Libreville en particulier, du patron en France. J'étais très bien reçue. Ils ont été très gentils avec moi. Ils disaient, cette pauvre jeune femme, il faut l'aider. Et ça a été une de mes grandes découvertes aussi quand je suis arrivée en Afrique, où je me disais, quand j'étais partie, quand même, même toute seule avec mon sac à dos, ma goutte qui fuyait. J'avais pas 30 ans, je partais seule. J'avais une lampe à gaz, entre autres, qui d'ailleurs ne correspondait pas au modèle que l'on trouvait au Gabon. C'est-à-dire que quand la petite bonbonne a été épuisée, je n'avais plus de lumière et je devais me coucher comme les poules, comme les autres. Et je me demandais un petit peu comment ça allait se passer. J'ai été extraordinairement bien reçue et très aidée. Alors, les Blancs, parce que j'avais des lettres de recommandation de France, donc ça c'était le pactole. Et puis les Africains, parce que d'une part ils étaient très gentils et d'autre part j'étais une espèce d'ovni, je crois, de personnage bizarre. Qu'est-ce que je faisais là? Donc je n'ai eu que des contacts tout à fait agréables.
Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, et tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, rumba de quinto de mi amor, tcha tcha tcha, rumba de quinto de mi amor. Cha cha cha, rumba de quinto de mi amor. Cha cha cha, cha cha cha, rumba de quinto de mi amor. Cha cha cha, cha cha cha, rumba de quinto de mi amor. Cha cha cha,
na 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 na.
Cha cha cha, rumba de quinto de mi amor. Cha cha cha.
Du tcha-tcha congolais de Monsieur Franco, avez-vous dansé, Catherine Cocry et Vidrovitch, dans ces années des indépendances africaines?
Ah oui, bien sûr. J'ai toujours beaucoup aimé danser et j'ai donc beaucoup dansé les danses africaines quand j'étais en particulier en Afrique équatoriale, où on danse beaucoup, où il y avait des bals populaires à Brazzaville, pas au Gabon. Le Gabon est un pays sévère, triste, sombre, avec une dictature. Enfin, c'était un pays très difficile. Mais au Congo-Brazzaville, c'était beaucoup plus expansif, beaucoup plus ouvert. Et c'était révolutionnaire à l'époque. Et c'était le révolutionnaire, on y croyait encore. C'était le tout début.
Et ces années 60 sont aussi celles de votre découverte du fameux rapport écrit par Pierre Savornian de Brazza, dénonçant la violence de la colonisation justement au Congo. Alors, où est-ce que vous l'avez découvert, ce fameux rapport? Est-ce que, avant de le découvrir, vous en connaissiez l'existence?
Est-ce que j'en connaissais l'existence? On disait vaguement qu'il y avait eu un rapport de Brazza qui était perdu depuis très longtemps, enfin non, à la suite de la mission d'inspection qu'il avait fait en 1905, parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé les scandales du Congo, le caoutchouc rouge, surtout au Congo belge, enfin qui ne s'appelait pas encore Congo belge, état indépendant du Congo, où les exploitants tiraient sur les Africains à vue s'ils ne récoltaient pas le caoutchouc. Bref, la France avait peur que cela déborde du côté français et a voulu couper court à ce genre de choses en envoyant l'ancien commissaire général et l'ancien explorateur dont j'avais voulu justement au début reconstituer l'exploration. Mais je faisais des sauts de puce en avion plutôt et dans tous les véhicules possibles et imaginables pour faire... C'est ça qui m'a fait bien circuler et bien connaître les gens d'ailleurs à ce moment-là.
Donc il s'agit de Pierre Savorgnan de Brazza.
Il s'agit de Pierre Savorgnan de Brazza qui a fait des explorations dans la zone entre 1876 et 1885 et qui est devenu commissaire général et qui a été renvoyé en 1897 parce que il trouvait que les traitements par des compagnies privées étaient intolérables. Il s'était retiré à Alger et le ministre des colonies en 1905 a pensé que compte tenu des scandales, il fallait rappeler cet homme qui avait une bonne réputation pour rapporter que tout allait bien au Congo. Il y a eu une mission de 6 mois d'une quinzaine de personnes qu'il a effectuée et il a tout de suite vu que ça n'allait pas du tout et il en est sorti un rapport. Il est mort au retour à Dakar, donc il n'a pas pu surveiller la rédaction finale du rapport qui était rédigé par le ministère et ce rapport a disparu parce que même élagué, il avait été considéré comme non publiable.
Mais vous, vous aviez fait des photocopies.
Alors moi, j'avais fait des photocopies. Enfin, moi, je travaillais sur les sociétés concessionnaires. C'est une longue histoire, il y en avait 40. Et il y avait énormément de dossiers. Donc j'ai fait énormément de dossiers qui se trouvaient... les archives de Brazzaville avaient été transférées en France. Elles se trouvaient à Aix-en-Provence. Ce qu'on appelle la NOM maintenant, les Archives Nationales d'Outre-mer. Donc j'ai effectué énormément de dossiers. Quand j'ai trouvé ce dossier, je me suis dit, oh, celui-là, il est quand même important. Et j'ai eu le réflexe de le faire photocopier. Ceci dit, je m'en suis servi comme une source comme une autre, parce que je dois dire que j'ai trouvé beaucoup de scandales. L'histoire que je faisais des sociétés concessionnaires, c'était 40 fois. Enfin, j'exagère un petit peu, mais enfin, disons, pour 10 des sociétés, il se passait à peu près les mêmes choses.
Alors, vous avez fait votre thèse, justement, sur ce sujet, hein, thèse d'État, Catherine Cochry-Vidrovitch, que vous avez soutenue en 1970. En revanche, le rapport écrit par Savorgnan de Brazza, vous n'avez pu le publier qu'en 2014. Pourquoi ?
Alors, écoutez, je l'ai gardé, j'ai travaillé, j'ai rédigé, je l'ai utilisé dans ma thèse. La thèse a été publiée 2 fois. J'ai mis en référence très exactement ses références, puisque je savais où il était avec la cote d'archives. Ça n'a fait tilt auprès de personne. Et les choses en sont restées là jusqu'au jour où un jeune éditeur est venu me voir dans les années 2010, quelque chose comme ça. Ces éditions s'appellent Le Passager clandestin. Il était à la recherche de documents justement oubliés, cachés, plus ou moins dissimulés. Et il avait entendu parler de ce rapport. Il en avait la photocopie de la première page, qu'il avait dû trouver aux archives, je pense. Et il m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait de le publier? Et moi, je lui ai répondu, ça fait 40 ans que je pense qu'il faut qu'il soit publié, vous êtes là, c'est merveilleux, donc on le fait.
Faire reconnaître l'histoire de l'Afrique a été le combat de toute la carrière de notre invité, un combat difficile aujourd'hui reconnu, un combat exposé au Quai Branly avec l'exposition L'Afrique des routes, dont notre Mama Africa, Catherine Cochry-Vidrovitch, est la conseillère scientifique. Départ du Taxi Brousse dans quelques minutes, tenez-vous prêts sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
C'est la suite de votre émission consacrée à Catherine Cochry-Vidrovitch, historienne pionnière de l'histoire de l'Afrique, devenue Mama Africa pour ses anciens élèves, aujourd'hui grand professeur dans les universités de Dakar, d'Abidjan ou de Lomé.
Ah ben, c'est une mère, comme pour tous, hein, c'est une mère, on a toujours gardé de bons rapports. Et ce que j'ai aussi appris de Catherine Coquerie, c'est comment traiter les étudiants. Les étudiants n'ont jamais été traités avec Coquerie comme une... Il n'y a pas de hiérarchie forcément, mais on a été toujours ensemble et considérés comme des collègues de recherche et nous avons toujours travaillé ensemble. Et ça, je crois que je l'ai appliqué à l'Université de Lomé, cela m'a réussi.
Ça, c'est une révolution au Togo?
Ah ben oui, c'est une révolution, parce que par rapport à beaucoup de mes collègues qui se voyaient un peu très haut par rapport à les étudiants, ils n'ont jamais eu de clientèle, mais Dieu merci, j'ai pu avoir ma clientèle des jeunes avec qui j'ai travaillé, qui aujourd'hui sont aussi professeurs, et ce qui prouve que les étudiants, si on sait leur donner de la considération, ils peuvent travailler et devenir pour vous donc des condisciples avec qui vous pouvez continuer à mener la réflexion historique.
Très intéressante réflexion sur la relation professeur-élève, enregistrée cette fois au sein même de l'Université de Lomé avec prof Michel Goué-Akoué. Est-ce que c'est un héritage légué par vous, Catherine Coquerie-Vidrovitch, ou bien est-ce que c'est un héritage légué par votre génération qui a fait 68 ?
C'est peut-être légué par notre génération, effectivement. J'ai vécu 68 avec beaucoup d'enthousiasme. Mais je dois dire que c'est une pratique que j'ai beaucoup mise en œuvre dans le laboratoire que j'ai eu la chance de créer en 1972 à l'Université Paris 7, qui était une création post-68art, justement, avec un président très imaginatif, qui s'appelait Michel Alliot, qui un jour, moi j'étais jeune maître assistante, pas grand chose en somme, et il m'a croisé dans le couloir et il m'a dit, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le tiers-monde, on parlait du tiers-monde à l'époque, il faudrait faire quelque chose. Ah mais je me suis dit, mais c'est une très bonne idée ça. Et je me suis dit, ben, on va faire quelque chose. Et j'ai consulté tous les collègues qui travaillaient sur différents pays du Sud, on dit aujourd'hui. Et ma foi, j'ai rédigé un mémoire, je l'ai envoyé à la présidence pour faire reconnaître un laboratoire d'université. Et on a commencé petitement comme ça, pour avant de se faire reconnaître en 1980. Et le principe vraiment du laboratoire, c'était de travailler ensemble. Les chercheurs travaillaient avec les jeunes chercheurs. Et il n'y avait pas un colloque ou des réunions que l'on fasse où il n'y ait pas ce mariage ensemble entre les jeunes et les plus âgés, disons. Et aussi avec, c'était très important, à une époque où on pouvait avoir un petit peu d'argent du ministère de la Coopération, avec des collègues et des étudiants africains venant des universités africaines.
Alors justement, dans ces années qui ont suivi 68, vous n'avez pas arrêté de sillonner l'Afrique, principalement le Sénégal, mais aussi le Tchad, le Congo, le Gabon, le Togo, le Niger, avec cette création de ce laboratoire en 1977. Est-ce que c'était également une vision marxiste du monde qui s'exprimait dans ce laboratoire?
Marxiste, oui et non, au démarrage, tout le monde. Maintenant, ça paraît bizarre, mais dans les années 60 en particulier, qui sont mes années de formation intellectuelle à oui. L'école des hautes études, tous les jeunes étaient communistes ou de sympathie communiste. C'était, nous cherchions tous des choses à gauche. C'était quelque chose de tout à fait normal. Maintenant, ça paraît étonnant, mais c'était normal. Donc, on était nourris de ça, mais en même temps, nous étions un laboratoire d'histoire, de géographie, de sciences politiques. Nous n'étions pas un laboratoire de philosophie et nous ne prétendions pas appliquer des règles quelles qu'elles soient, marxistes ou pas. 10 ans après, on m'a demandé, ce sont des Américains qui m'ont dit, est-ce que vous êtes marxiste ou pas ? J'ai dit, j'en ai pas la moindre idée, c'est pas mon problème.
En tout cas, vous vous trouvez au Burkina Faso, l'année où le capitaine Sankara prend le pouvoir. Est-ce que vous en gardez un souvenir précis ?
Ah oui, 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 c'était très très intéressant, effectivement. C'était très intéressant parce que on sentait, j'ai aussi le souvenir de cette fameuse voie ferrée qui était un peu un rêve de Sankara, de faire construire par le peuple une voie ferrée, donc ça n'a pas marché. Mais disons, c'était l'enthousiasme révolutionnaire des débuts, comme je l'ai vu aussi au Mozambique en 1977. On ne savait pas ce qui allait se passer après.
Et je vous propose tout de suite de commenter ce morceau choisi du discours à l'ONU de Thomas Sankara, c'était en 1984.
Permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal mal quelque part. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme burkinabé. En retour, nous donnons en partage à tous les pays l'expérience positive que nous entreprenons avec des femmes désormais présentes à tous les échelons de l'appareil d'État et de la vie sociale au Burkina Faso. Des femmes qui butent et proclament avec nous que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et nous en appelons à toutes nos sœurs de toutes les races pour qu'elles montent à l'assaut pour la conquête de leurs droits.
Brillant orateur et sacrément iconoclaste, Thomas Sankara, à la tribune de l'ONU, Catherine Cochry-Vidrovitch.
Oui, et il a fait beaucoup de choses, effectivement, pour la libération des femmes, enfin, pour transformer la condition féminine au Burkina Faso et ailleurs. C'est un rôle très important et très nécessaire.
De la playlist de l'exposition L'Afrique des routes à retrouver sur la page RFI.fr de la Marche du Monde. Une invitation à remonter le temps jusqu'au berceau de l'humanité, à contre-temps des idées reçues, Catherine Cochry-Vidrovitch, et du fameux discours de Dakar où Nicolas Sarkozy déclarait que le drame de l'homme africain, c'est que l'Afrique n'était pas suffisamment entrée dans l'histoire.
Oui, alors bien sûr, beaucoup de gens pensent que cette exposition est une réponse à ce qu'a dit Sarkozy. C'est une réponse beaucoup plus générale. En fait, la volonté, c'était de montrer que, à travers des objets, parce que nous sommes dans un musée d'art, à travers la beauté des objets et la créativité africaine, l'histoire africaine est révélée par autant d'indices que d'objets. Et cette histoire est très ancienne, très vaste, très variée, et va de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Et comme j'enseignais à mes étudiants, les Européens croient qu'ils ont découvert l'Afrique, qu'ils n'ont pénétré qu'en 1797, à l'extrême fin du XVIIIe siècle, ils ont découvert l'Afrique deux millénaires après les Indiens, les Arabes et même les Chinois qui avaient quitté l'Afrique quand les Portugais arrivaient.
Vous êtes moqueuse. Alors je vous propose une visite choisie de cette exposition dont vous êtes la conseillère scientifique au micro de notre reporter Philippine Lebret.
Je suis avec vous, Gaëlle Beaujean. Vous êtes commissaire de cette exposition Afrique des routes. Et on va s'approcher tout de suite du premier objet qui nous intéresse dans cette exposition.
Alors, nous sommes devant une reproduction de l'atlas de Ptolémée qui s'appelle Cosmographia. L'original a été réalisé au IIe siècle et cette copie est du XVe. Donc, il s'agit d'un atlas qui se déploie sur deux pages, donc en parchemin. La map monde est sous forme d'un trapèze sur fond bleu et à l'intérieur du trapèze, on voit l'Europe qui a peu près dessiné, on voit bien la mer Méditerranée qui lie l'Europe au continent africain, mais donc ce continent africain est quelque part sans limite puisque on n'en voit pas les contours, et ce qui est surtout représenté c'est effectivement l'Afrique du Nord, la Mauritanie qui était bien connue en raison du lien avec l'Empire romain. On a un dessin aussi assez exact, assez juste autour du Nil. En revanche, au sud, on a un fond blanc où on comprend que le continent se poursuit. Il y a une mention, terra incognita, donc terre inconnue, qui prouve bien en fait une reconnaissance et une conscience de l'existence et de l'immensité du continent africain.
Le continent africain, terra incognita, mais terra à conquérir aussi, Catherine Cochry-Vidrovitch.
Oui, bien sûr, une grande partie du terrain africain a été conquise à travers les siècles et les millénaires. Ça fait partie de cette histoire, qui est une histoire dans l'ensemble malheureuse, effectivement, dans la mesure où c'est une histoire de conquêtes externes et aussi de conquêtes internes.
On va continuer sur les routes. Est-ce que vous pouvez me dire là la route qu'on est en train d'emprunter ?
Donc là, nous sommes dans la partie sur les routes commerciales. Les colliers que nous présentons ici sont des colliers qui ont été trouvés au Mali, qui sont du 8e, 7e, 8e siècle, qui proviennent d'Égypte, qui proviennent du Moyen-Orient. On a un collier de perles en pâte de verre bleue, noire, blanche, et on a trois éléments qui reprennent la forme d'une amulette musulmane. Ces amulettes en cuir comportent en général des versets du Coran et permettent de protéger en fait son possesseur. Donc les perles, tout comme le sel, étaient extrêmement recherchées dans les échanges du côté africain pour différentes raisons. Déjà la solidité, les qualités esthétiques indéniables, le côté ostentatoire, tout comme l'or ou l'ivoire du côté européen ou asiatique, et la rareté en fait de ces matériaux transformés. Et en fait, ces perles indiquent quoi ? Des relations commerciales anciennes. Même si là on est au 8e siècle, on sait que les échanges étaient déjà bien établis bien avant le début de notre ère. Et qui dit contact, histoire, dit aussi circulation d'éléments immatériels. Ça va être les idées, ça va être les savoirs, ça va être les religions. Donc on peut tirer, à partir de ces objets, on peut tirer le fil pour affirmer que l'Afrique a une histoire et tirer ce fil-là à travers les objets.
Alors on est toujours sur les routes commerciales, mais dans une dimension peut-être un peu moins tangible. Et pourtant, on est devant un des objets les plus volumineux, je pense, de cette exposition. On va tourner autour pour que vous puissiez nous dire de quoi il s'agit et nous le décrire.
Alors, nous sommes donc face à une vitrine qui est composée de trois estrades en pyramide. Et on a environ une trentaine de fioles qui contiennent des plantes qui ont été collectées par un Italien qui s'appelle Cipriani, entre 1927 et 1930, et qui en fait, fiole par fiole, reprend des herbes, des éléments d'animaux ou quelques objets comme les perles de verre. Et près de chaque fiole, une étiquette indique la propriété de la plante. Par exemple, on est face à une fiole qui contient des cornes d'antilope associés à des plantes et qui sont en fait des talismans contre les lions pour protéger le chasseur. Juste au-dessus, on a une petite fiole avec une feuille qui est en fait une infusion contre la toux. Ces plantes-là, dont les propriétés ont été énoncées auprès de colons européens notamment, et de médecins en particulier, ou de pharmaciens, chimistes en particulier, ont été rapportées en Europe. Les propriétés ont été signalées aux chimistes qui ont isolé les molécules et qui ont pu après déposer des brevets et à partir de cette molécule la reproduire et les mettre dans des médicaments. Ce qui est très intéressant à travers cet ensemble, c'est la reconnaissance de ce savoir.
Les savoirs et les savoir-faire africains sont dans l'exposition Les routes de l'Afrique, à travers les plantes, mais aussi à travers ces perles, qui prouvent que les échanges extra-africains ont débuté bien avant l'arrivée des premiers navires portugais au XVe siècle, Catherine Kokri-Vidrovitch. Donc on se rend bien compte qu'on est dans une histoire extrêmement méconnue, qu'on va à l'encontre des idées reçues. Et à travers ces objets, au fond, vous avez choisi de raconter cette histoire longue, mais je dirais que tout au long de l'exposition, on va de surprise en surprise.
Oui, parce qu'en réalité, on se rend compte que quelque chose qui est une évidence quand on regarde une map monde, l'Afrique se trouve entre l'Asie et l'Amérique. Donc tout ce qui venait d'Asie pour aller vers l'Amérique est d'abord passé par l'Afrique. Et tout ce qui venait d'Amérique pour aller en Asie est aussi d'abord passé par l'Afrique. L'Afrique est un creuset extraordinaire qui a fait feu de tout bois, qui a reçu aussi tout ceci et qui l'a commercialisé à l'intérieur, bien entendu, parce que c'est très vaste. Et les perles, par exemple, sont allées depuis les débuts de notre ère, de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Les coris, qui sont des coquillages qui servaient de monnaie au Moyen-Âge dans l'Ouest africain, viennent des îles Maldives. Et tout ceci sont la preuve que ces circulations étaient extrêmement importantes et très méconnues. Qui sait en France que avant la découverte de l'Amérique, tout l'or qui fournissait d'une part l'Europe occidentale et d'autre part l'océan Indien et le monde asiatique venait d'Afrique, d'Afrique subsaharienne de l'Ouest pour l'Atlantique, d'Afrique australe du Zimbabwe pour l'océan Indien. D'ailleurs, à l'époque de l'Égypte ancienne, l'or il venait aussi d'Afrique. Il a fallu la découverte de l'Amérique et des mines d'or du Brésil au XVIIIe siècle pour que cela change et que cela revienne en Afrique à la fin du XIXe siècle avec Johannesburg. Sans or, on ne pouvait pas faire d'économie occidentale.
D'où l'urgence d'intégrer cette histoire de l'Afrique dans les programmes scolaires.
Toujours avec vous, Gaëlle Beaujon, on continue cette visite de l'exposition Afrique des routes au musée du Quai Branly. On emprunte là une nouvelle route, la route spirituelle et religieuse. Et on va peut-être s'approcher du mur qui est consacré à la question de l'esclavage.
Alors, donc là, nous sommes devant un plâtre de Jean-Baptiste Carpeau, qui est un sculpteur du 19e siècle. Donc, une œuvre qui est très connue qui s'appelle La Négresse ou Pourquoi naître esclave. On voit une femme américaine d'origine africaine qui tourne la tête, qui est décoiffée, qui a les épaules nues, ses seins sont nus également et son buste est ficelé. Les yeux indiquent une inquiétude, une angoisse, une colère aussi, qui est celle que partage le sculpteur en fait, qui a réalisé en 1868 cette ode pour la libération de la femme noire africaine dans les colonies américaines françaises. Ça fait écho aussi à Colorline, qui est une exposition qui était au Quai Branly il y a quelques mois, sur le statut et les conditions du monde africain-américain, donc plutôt aux États-Unis, mais on pourrait dire dans le monde américain en général, où cette question de la couleur de peau est loin d'être une question réglée.
Les Africaines et Femmes d'Afrique, ce sont les deux ouvrages que vous avez consacrés à l'histoire de la moitié du continent. Catherine Kokri-Vidrovitch, alors est-ce qu'il faut être féministe pour trouver l'énergie d'écrire l'histoire des femmes africaines à laquelle j'ai l'impression personne ne veut s'intéresser ?
Non, je ne crois pas que je puisse dire, c'est la même question que suis-je marxiste ou pas, suis-je féministe ou pas. D'une certaine façon, je n'ai jamais eu l'idée que je pourrais faire autre chose que ce que j'ai fait, en particulier d'étudier et d'exercer une profession. Ce qui, dans ma génération, n'est pas généralisé, disons, dans la petite et moyenne bourgeoisie dont je faisais partie. Alors, ça ne m'a posé aucun problème. Je n'ai pas été féministe parce que je n'ai pas eu besoin de l'être. Mais tout d'un coup, je me suis rendu compte, effectivement, c'est Michel Perrault qui a beaucoup travaillé sur les femmes en Occident. Nous étions collègues. Elle a fait une œuvre magnifique. Enfin, elle a dirigé une œuvre magnifique sur l'histoire des femmes en Occident. Ben, je me suis dit, oui, d'accord, les femmes en Occident, mais les autres. Et moi, je peux faire quelque chose sur l'histoire des femmes africaines. Et j'avais la chance d'enseigner 6 semaines par an aux États-Unis, d'avoir donc accès à des bibliothèques, à des travaux qui étaient déjà très avancés de langue anglaise, alors que du côté français, il n'y avait presque rien. Donc j'ai voulu mettre tout ceci à la portée de des Français et des Françaises, enfin de la langue française, pour montrer qu'une histoire de la condition féminine, maintenant on dit une histoire du genre, est tout à fait possible, tout à fait nécessaire en Afrique. Et ça a donné d'ailleurs, un petit peu comme l'histoire des villes, que j'ai aussi contribué à lancer, l'histoire des femmes africaines a donné des générations très brillantes qui m'ont succédé.
L'exposition se termine par la Nation des artistes. Dans cette dernière partie, vous donnez la parole à des artistes africains contemporains. Et nous, on va terminer cette promenade sur les routes d'Afrique devant une œuvre assez impressionnante.
Alors, l'œuvre de Yinka Chenibare que nous voyons est une immense sculpture. Donc c'est un cube, hein, donc on est 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Alors, le titre, c'est La Méduse, mais il ne s'agit pas d'une méduse, il s'agit d'un bateau qui se trouve en fait sur une vague de fond qui fait l'équivalent de la longueur du bateau. Donc, ils sont en pleine tempête. Les voiles commencent à se déchirer. Le bateau est complètement instable. On voit les canots de sauvetage éparpillés sur la mer qui est matérialisée en fait dans cette sculpture par de la mousse peinte à l'acrylique. Et donc ces voiles de wax, le wax représente l'Europe, hein, l'industrialisation, sont de couleur orange, blanche, violette, et ils sont tous polychromes. C'est une œuvre qui a été réalisée en 2008, et donc le titre La Méduse se rapporte à un bateau français qui s'appelait La Méduse, qui part en 1816 de France pour aller à Gorée. L'île de Gorée était un port de traite et il y a naufrage, non loin de Saint-Louis du Sénégal, qui est la première ville coloniale française du XVIIIe siècle. Et les rescapés vont construire un radeau, c'est le radeau de la Méduse. Et la suite de l'histoire, c'est que en fait, les naufragés ont dû recourir à l'anthropophagie pour survivre. Ils ont mangé leurs collègues qui venaient juste de décéder. C'est le blanc anthropophage.
L'artiste britannico-nigérian Yinka Chenibare met en scène l'histoire du bateau La Méduse et c'est l'œuvre qui clôt l'Afrique des routes. Pour quelle raison ?
Mais je pense que Gaëlle en particulier était très séduite par cette revanche de l'histoire. Effectivement, les ethnologues et les voyageurs prétendaient qu'il y avait beaucoup d'anthropophagie qui pouvait exister, mais sous une forme rituelle, religieuse, comme ça existait dans beaucoup de sociétés. Et cette anthropophagie de survie, je pense que c'est une sorte de jolie revanche pied de nez sur une œuvre qui est très belle. Par ailleurs, donc je crois que c'est ça qui lui a plu beaucoup.
D'autant
et qui m'a plu aussi, d'ailleurs.
D'autant que très peu d'Occidentaux qui ont le loisir de découvrir le tableau, le radeau de la Méduse, notamment au musée du Louvre, savent que c'est une histoire de la colonisation.
Ben oui, parce que sur le bateau de la Méduse se trouvait Molien, qui était un très jeune homme de 17 ans, qui a été sauvé par les Sénégalais, que cela n'a pas dégoûté de découvrir l'Afrique, et qui a fait une des toutes premières explorations françaises du Sénégal.
Catherine Kokri-Vidrovitch, est-ce que vous n'enviez pas au fond les artistes, les écrivains, les écrivaines qui ont la liberté, eux, de dire ce qu'ils veulent sans avoir forcément à le prouver ?
Je dis souvent, les romanciers savent mettre le doigt là où ça fait mal et ils n'ont pas les scrupules des historiens qui ont besoin d'archives, de sources, de vérifier, etc. Donc ils laissent aller leur passion et leur imagination. Donc les écrivaines africaines sont parmi les meilleures du monde.
Alors justement, citez-nous un ouvrage que vous pourriez nous recommander.
Le premier en langue française, le premier qui a existé vraiment, c'est très tardif. C'est Mariam Abba, une si longue lettre, et qui pose absolument un des problèmes fondamentaux de l'époque. Il n'a été publié qu'après l'indépendance. Deux femmes correspondent. L'une a accepté de supporter une deuxième épouse, et elle en est très malheureuse. et elle correspond avec son amie de jeunesse qui, elle, a épousé quelqu'un qui n'est pas de sa caste, qui a été rejeté, qui finalement a décidé de divorcer, ce qui ne se faisait pas du tout. Donc c'est deux problèmes insolubles exposés dans un petit roman qui est une merveille de littérature.
Merci Catherine Kokri-Vidrovitch. Je rappelle que la liste de vos ouvrages est disponible sur la page de la Marche du Monde ainsi que le lien vers l'exposition L'Afrique des routes au Quai Branly ainsi que bien sûr sa playlist. Mama Africa, un portrait de Catherine Kokri-Vidrovitch. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon avec la complicité de Philippine Lebret et une mise en onde d'Eliott Bourrel. Écrivez-nous sur marche.monde@rfi.fr ou sur notre page Facebook. Réagissez, podcastez cette émission, c'est la vôtre.